Chapitre 7. Le 13 janvier 532, premier jour des Ides de l'année, une foule plus nombreuse encore qu'à l'ordinaire envahit l'hippodrome. 100 000 spectateurs prennent place sur les gradins et se pressent dans les promenoirs. On commence les cris et les chants, on déploie les bannières bleues et vertes des factions. Bientôt le patriarche, les patrices, les ducs, les comtes, les exarques occupent les loges qui leur sont réservées. Des détachements des quatre corps de la garde impériale, scolaires, domestiques, cubiculaires et silencières, dont resplendissent les casques et les cuirasses roses et d'or, viennent se ranger autour de leurs étendards sur la terrasse du Py. Les portes de bronze du Catisma s'ouvrent. Justinien, entouré de ses grands officiers et suivi de gardes et d'eunuques, s'avance au bord de la tribune. Il porte le sceptre et la couronne. Les acclamations et les murmures éclatent et se confondent dans une immense clameur. Justinien appelle la bénédiction divine sur le peuple en traçant le signe de la croix avec le pan de sa trabéa de pourpre. Les chars entrent dans l'arène. Les acclamations cessent parmi les bleus. Les rumeurs continuent dans l'amphithéâtre des Verts. Justinien patiente et feint de ne rien entendre. Mais les murmures et les cris devenant plus nombreux et plus significatifs, il donne l'ordre à l'un de ses officiers, nommé le mandator, d'interpeller le peuple. Les Verts sont d'abord intimidés, et c'est respectueusement, presque humblement, qu'ils formulent leur plainte. « Un grand nombre d'années à toi, ô auguste Justinien, tu vaincras, mais nous souffrons toutes sortes d'injustices, ô toi qui es seul bon, et Dieu le sait, nous ne pouvons en supporter davantage. » Nous n'osons pourtant nommer notre oppresseur, de peur que sa faveur n'augmente et que nous ne courions de plus grands dangers encore. S'il se passe de telles choses, je n'en sais rien, répond prudemment Justinien par la voix du mandator. À ces mots, le porte-parole des Verts le prend sur un autre ton et le plus étonnant dialogue s'engage entre Justinien, les Verts et les Bleus qui ne tardent pas à intervenir. Les formules serviles se mêlent aux invectives, les cris de colère aux plaisanteries ironiques, les invocations à Dieu aux plus horribles blasphèmes. Questions et réponses, plaintes et menaces se succèdent comme les strophes et les antistrophes d'un cœur tragicomique. « Quoi, tu ne sais rien ?» dit le porte-parole des Verts. « Quoi ? Sainte Mère de Dieu, tu ne sais pas que celui qui nous opprime sans relâche est un officier de ton palais ? Aucun d'eux ne vous a offensé. » « Notre bourreau, c'est Calopodios, le chambellan et le gardien du glaive, ô notre maître à tous. »« Mais Calopodios ne s'occupe pas de vous. »« Ah, qu'il ne recommence pas, il aura le sort de Judas, Dieu lui donnera la récompense qui lui est due. »« Êtes-vous venu dans l'hippodrome pour insulter les magistrats ?»« L'injuste aura le sort de Judas. »« Taisez-vous, juifs, manichéens, samaritains !» La mère de Dieu nous protège. Je vous dis, reprend le mandateur en raillant, de vous faire baptiser jusqu'au dernier. Qu'il soit fait comme tu l'as ordonné, ripostent les Verts en raillant aussi. Qu'on apporte ici l'eau lustrale, nous voulons être baptisés jusqu'au dernier. Méprisez-vous la vie, s'exclame Justinien, devenu furieux. Chacun y tient. Si nous disons quelque chose qui te déplaise, ne t'en offense pas, ô trois fois auguste. Dieu n'écoute-t-il pas tout avec patience? Mais dis-nous pourquoi il n'y a pas de justice pour les Verts. Vous mentez. Qu'on supprime la couleur que nous portons et les tribunaux n'auront plus rien à faire. Il y a eu un meurtre ce matin. C'est certainement quelqu'un de nous qui l'a commis. Nous sommes toujours condamnés. Tu es la fontaine de sang. Plût à Dieu que ton père ne fût jamais né, il n'eût pas engendré un assassin. Vous allez mourir. Les Bleus interviennent alors. Vous seuls êtes des assassins. Non, c'est vous, vous seuls. Qui a donc hier tué le marchand de bois? C'est vous. Qui a tué le fils des Pagatos? C'est vous, encore vous. Ô Dieu, ayez pitié, il n'y a plus de vérité. « Dieu est étranger au mal », reprend sentencieusement par la bouche du mandator, Justinien, qui ne perd pas de vue ses idées théologiques. « Si Dieu est étranger au mal, pourquoi vivons-nous dans l'oppression? qu'on appelle un philosophe ou un solitaire pour résoudre la question. Blasphémateur, ennemi de Dieu, vous tairez-vous ? Si tu trouves que nous en avons dit assez, nous nous tairons, ô trois fois Auguste. Porte-toi bien, justice. Maintenant, tes arrêts sont nuls. Nous désertons et nous nous faisons juifs. Mieux vaut devenir gentil que d'être mené par les bleus, Dieu le sait. Horreur, s'écrient les bleus, nous ne voulons pas regarder de ce côté. Quelle envie on nous porte, quel outrage on nous fait. Qu'on déterre un jour les ossements de ceux qui resteront plus longtemps à ce spectacle. S'écrient d'une seule voix les verts, et après avoir proféré cette imprécation, ils quittent tous l'hippodrome. C'est la plus grande offense à la majesté impériale. Justinien rentre aussitôt dans son palais, et les bleus se retirent à leur tour. On n'était encore qu'au milieu de la journée. Le préfet, Eudémon, irrité de la scène qui s'est passée au cirque et dont il craint de porter la responsabilité, veut faire un exemple et surtout, veut faire du zèle. Par ses ordres, on arrête trois individus plus ou moins soupçonnés d'être les assassins du marchand de bois et du fils des Pagatos. On les juge sommairement et on les condamne à mort. Des soldats de police les entraînent dans le vieux Byzance sur la place des exécutions. Devant une masse de peuple qui contient à peine sa fureur, le bourreau pend le premier condamné. La corde casse sous le poids du second. La population applaudit, se jette sur les gardes, délivre le patient ainsi que le troisième prisonnier. On les jette dans une barque qui les dépose sur l'autre rive du Bosphore, où ils trouvent un asile dans l'église de Saint-Laurent. Des deux condamnés, l'un appartenait à la faction bleue, l'autre à la faction verte. Bleus et verts, le matin encore ennemis déclarés, font cause commune. Malgré la nuit, une foule tumultueuse se porte devant le palais impérial pour demander la grâce des prisonniers. L'empereur ne donne pas signe de vie. La populace s'ameute encore devant le palais du préfet Eudémon. Celui-ci l'a fait charger par ses gardes. Un combat s'engage. Les soldats sont massacrés, on met le feu au prétoire. Poussée par le vent, la flamme gagne les maisons voisines. Les émeutiers courent aux prisons, en brisent les portes et jettent hors des geôles l'armée des scélérats. Cette écume humaine se rue au pillage et à l'incendie, hurlant « Sois vainqueur !» cri de ralliement adopté par les émeutiers. Le lendemain 14 janvier, le flot populaire battait les portes du palais. Deux personnages de la cour tentent de parlementer avec les rebelles. Mille voix crient « Tribonien, Jean de Cappadoce, Eudémon, Calopodios !» Dans l'espoir d'apaiser le peuple, Justinien destitue ses quatre magistrats et fait aussitôt proclamer les noms de leurs successeurs. 20 expédients d'un pouvoir est perdu. La sédition s'est faite révolte. Il ne s'agit plus des créatures de Justinien, il s'agit de l'empereur lui-même. Ces concessions ne désarment pas la multitude furieuse. Le 15 janvier, Justinien, qui hésite entre toutes les mesures, donne l'ordre de réduire l'insurrection par la force. Les Hérules de Mondon, troupes sûres dans les émeutes comme tous les mercenaires, mais sauvages et féroces, sortent du palais et chargent les rebelles. Dans le feu de l'action, les barbares renversent des prêtres, porteurs de saintes reliques, intervenus pour séparer les combattants. On crie au sacrilège. Les femmes, les citoyens paisibles, qui jusque-là étaient restés neutres, prennent parti pour les séditieux. Des fenêtres, des toits en terrasse, une grêle de tuiles, de pierres, d'ustensiles, de tisons enflammés tombent sur les soldats de Mondon. Ils se retirent en désordre vers le palais. Les deux jours suivants, 16 et 17 janvier, le feu fait de nouvelles ruines, les rebelles font de nouvelles victimes. On égorge ou l'on jette au Bosphore tous les individus soupçonnés d'être partisans de l'empereur. On incendie le quartier des Orfèvres après en avoir pillé les maisons. La population riche émigre en masse et se réfugie sur la rive d'Asie. Des îlots de feu brûlent sur tous les points de la ville. Les flammes consument des milliers de maisons et d'édifices. Sainte-Sophie, Sainte-Irène, Saint-Théodore, Sainte-Aquiline, les bains d'Alexandre, l'Octogone, les thermes du Zeuxippe, avec toutes ses statues, l'asile de Bulle, le portique public, le grand hôpital, qui retentit d'horribles hurlements. Le 18 janvier, sixième jour de l'insurrection, l'eunuque Narsès était parvenu à soudoyer un certain nombre de bleus afin de faire renaître la division parmi les insurgés. Justinien crut que sa vue et une promesse d'amnistie apaiseraient le peuple révolté. La multitude tenait dans l'hippodrome une assemblée tumultuaire. Soudain, l'empereur, escorté de gardes nombreux, apparut à la tribune, tenant entre les mains le livre des évangiles. « Par ce livre sacré, dit-il à haute voix, je jure que je vous pardonne l'offense que vous m'avez faite. Aucun de vous ne sera inquiété ni recherché si vous rentrez dans l'obéissance. » Et, continuant, Justinien abaissa la majesté impériale jusqu'à dire « Je suis seul coupable, vous êtes innocent. Ce sont mes péchés qui m'ont attiré ce malheur en fermant mes oreilles à vos trop justes plaintes. » À ces mots, quelques cris de « Victoire à Justinien et à son épouse, l'Augusta Théodora !» se firent entendre dans la foule, bientôt couverts par les huées, les menaces et les clameurs furieuses. « Tu mens, âne ! Mort au blasphémateur ! Mort à l'assassin !» Bien que l'escalade de la tribune semblât presque impossible, Justinien n'attendit pas davantage pour entrer dans le palais. Alors le peuple, pressé de se donner un nouveau maître, se porte vers la demeure d'Hypatius, neveu de l'empereur Anastase. L'ambition et la crainte luttent dans l'esprit d'Hypatius. Il hésite, mais en vain sa femme qui pleure s'écrie qu'on le mène à la mort, les rebelles l'entraînent, ainsi que son frère Pompée. Le cortège fait halte dans le forum de Constantin. On élève Hypatius sur un bouclier, on le proclame empereur. À défaut de diadème, on lui pose un collier d'or sur le front. La foule veut marcher incontinent sur le palais pour en finir avec le tyran déchu. Un sénateur, car plusieurs magistrats s'étaient ralliés à l'insurrection, arrêta cet élan. « Attendons, dit-il, que nous ayons plus d'armes. D'ailleurs, Justinien ne songe pas à nous attaquer. Bientôt, il sera trop heureux de fuir pour sauver sa vie. Si nous ne nous pressons pas de combattre, nous triompherons sans combat. » On écoute la vie et, pour continuer la parodie du couronnement, on entre dans l'hippodrome. Hypatius, hissé sur la tribune impériale, reçoit les ovations de ses nouveaux sujets. Cependant, au fond du palais sacré, Justinien est dans les affres égales à celles de la mort. Concessions, résistances, menaces de châtiment, promesses de pardon, embauchage, humiliation de soi-même, il a tout employé. Rien n'a réussi. Du côté de la Chalcée, des flammes environnent son palais. Du côté de l'hippodrome, il entend en tremblant les cris de mort proférés contre lui et les acclamations qui sacrent son successeur. On vient de piller l'arsenal et les insurgés s'arment. Justinien n'est séparé de la foule furieuse que par la porte de bronze du Catisma. Contre un peuple entier, que lui reste-t-il pour se défendre? 1000 vétérans de Bélisaire, 2000 barbares de Mondon. Quant à sa garde, domestiques et cubiculaires, soldats d'antichambre et comparses de procession, il n'a jamais pu compter sur sa fidélité. Justinien, qui fut un conquérant, par l'épée des autres, n'avait pas le courage militaire. Il n'avait pas davantage le courage civil. Déjà, il se voyait traîné à demi-mort au supplice, comme un Vitellius, au milieu des coups et des huées. Il réunit en un suprême conseil ses ministres, ses familiers, ses généraux, les quelques sénateurs et patrices qui lui sont restés fidèles. Chacun est appelé à dire sa pensée devant les deux souverains. Le découragement a gagné les cœurs les plus fermes. Aussi bien, l'empereur ne demande pas qu'on le conseille, il demande seulement qu'on approuve la dernière idée qui lui reste, la fuite. Depuis 3 jours, un bâtiment où sont entassées toutes les richesses du trésor impérial est à l'ancre près des jardins. Justinien s'embarquera avec l'impératrice. Bélisaire et ses 3000 hommes essaieront, s'ils le peuvent, de réprimer l'émeute. En adoptant cette résolution, l'empereur eut sauvé sa vie, mais il eut perdu sa couronne. Avec si peu de monde, Bélisaire ne pouvait tenter un coup de désespoir qu'animé par la présence du souverain et mis dans la nécessité de périr ou de le sauver. Tous les assistants, cependant, même Bélisaire et Mondon, approuvèrent le projet de Justinien. Théodora n'avait encore rien dit. Soudain, indignée de la lâcheté de son mari et des défaillances de ses officiers, elle prononça ces vaillantes paroles. « Quand même il ne resterait d'autre moyen de salut que la fuite, je ne voudrais pas fuir. Ne sommes-nous pas tous voués à la mort dès notre naissance ? Ceux qui ont porté la couronne ne doivent pas survivre à sa perte. Je prie Dieu qu'on ne me voie pas un seul jour sans la pourpre. Que la lumière s'éteigne pour moi lorsqu'on cessera de me saluer du nom d'impératrice. Pour toi, Autocrator, si tu veux fuir, tu as des trésors, le vaisseau est prêt et la mer est libre. Mais crains que l'amour de la vie ne t'expose à un exil misérable et à une mort honteuse. Moi, elle me plaît cette antique parole que la pourpre est un beau linceul. » L'éloquence virile de Théodora ranime les courages et enflamme les cœurs. Bélisaire retrouve son coup d'œil de capitaine. Les rebelles se sont enfermés dans l'hippodrome comme en une forteresse. Ce sera leur tombeau. La pourpre d'Hypatius sera le sang de ses partisans. 3000 hommes fidèles, Hérules de Mondon et vétérans de Bélisaire, cernent le cirque. Les uns s'emparent des issues, les autres gagnent par les escaliers intérieurs les promenoirs qui règnent au-dessus des gradins. De cette position dominante, ils criblent de flèches les partisans d'Hypatius qui se pressent dans l'arène. Les plus hardis des rebelles tentent plusieurs fois l'assaut. Ils sont chaque fois repoussés. La foule veut fuir par les vomitoriens, mais ce sont autant de défilés où 10 hommes en valent 1000 et ils sont gardés par les Hérules de Mondon. Les premiers rangs des fuyards tombent sous les piques. Une muraille de mort obstrue chaque ouverture. La multitude affolée tournoie en désordre sous la grêle des traits jusqu'à ce qu'elle soit emprisonnée, immobilisée par ses propres cadavres. Les soldats descendent dans l'arène, les épées achèvent l'œuvre des flèches. Ce combat misérable se termine par l'égorgement. Le sang ruisselle en torrent. Le carnage continua jusque très avant dans la nuit. Ivres de sang, les soldats barbares tuèrent tant qu'il resta à tuer. Les jours suivants, il fallut enterrer 30 000 morts. De tous ceux qui étaient dans l'hippodrome, personne n'échappa, sauf Hypatius et son frère, que les soldats eurent la cruauté d'épargner pour les traîner aux pieds de Justinien. « 3 fois Auguste !» s'écrièrent-ils en se prosternant. « C'est nous qui t'avons livré tes ennemis, car c'est par nos ordres qu'ils se sont réunis dans le cirque. » Justinien, qui ne tremblait plus, avait recouvré sa présence d'esprit. « C'est bien, répondit-il avec un cruel à-propos. Mais puisque vous aviez tant d'autorité sur ces hommes, vous auriez bien dû en user avant qu'ils eussent brûlé ma ville. » Et il commanda de mener au supplice les 2 neveux d'Anastase.